Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le lundi 15 mai avec l'hôpital de jour. Alors, qu'il y a aujourd'hui en studio avec nous ?
Maxime.
Émilie. Oui.
Salut.
Adrien.
Ok.
Clément.
Benjamin.
Et Ludwig.
Et Ludwig. Alors aujourd'hui, c'est un lundi un petit peu particulier parce qu'on a l'immense plaisir de recevoir Jacques-Henri Hérault qui n'est autre que le directeur de l'OM. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue à la radio, merci beaucoup de nous rendre visite, ça nous fait très très plaisir.
Moi aussi. Ils sont très motivés, ils sont impressionnants, on se croirait chez RMC.
Wow.
Non, mais RMC, c'est la première radio de France.
Mais voilà.
Grande classe. Non, on est très très heureux de vous recevoir parce qu'en plus on a vraiment plein de questions à vous poser. Adrien, commence par la première question.
Alors, quel genre d'ado étiez-vous ?
Oh là !
Eh ouais, on commence avec le vif
attaque,
du sujet.
On attaque à froid, là. Écoute, j'étais un ado qui aimait bien le sport, déjà, parce que j'en ai beaucoup pratiqué depuis tout petit. Le sport m'a beaucoup apporté. Je faisais des sports de combat. Je faisais du taekwondo. Tu connais le taekwondo ?
À peu près.
Bon, ça consiste à faire des trucs bizarres avec ses jambes. Mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et puis, j'ai fait des sports collectifs aussi. En tout cas, voilà, le sport a eu toujours beaucoup de place dans ma vie. Et puis, à l'école, parfois j'avais des bonnes notes, parfois j'en avais un peu de moins bonnes. Comme vous, quoi. C'est difficile. Et j'ai essayé de m'accrocher. Et je m'intéressais aussi à beaucoup de choses. J'étais curieux. Quand j'étais ado, j'ai essayé de garder ma curiosité, même maintenant que je ne suis plus ado. Donc je m'intéressais à plein de choses. Voilà, c'était un peu mon moteur, ça l'a toujours été. Donc voilà un peu l'ado que j'étais. Et puis j'étais fils unique. Alors ça, parfois, c'était pas marrant, parce que être tout seul, c'est pas forcément très, très drôle, mais je me suis toujours débrouillé. Voilà.
Et en dehors du sport, vous avez d'autres hobbies ou pas ?
Ah, j'ai toujours aimé la musique, voilà, j'aime beaucoup la musique, depuis tout petit, toutes les sortes de musique. T'as vu que j'aimais bien le rap, IAM j'aime bien, mais j'aime pas que le rap, j'aime aussi plein de styles de musique différents. Voilà.
Pas mal, en plus on parle à un amateur de musique en l'occurrence.
T'aimes quoi comme musique toi ?
Principalement le métal, mais ça peut aussi aller vers le rock. D'accord. Et des fois du jazz.
Tu sais que je suis un grand fan de Rammstein. Tu connais Rammstein ?
Je connais. C'est pas vraiment mon truc, mais c'est bien.
Bah, t'as raison. Chacun son truc.
Chacun son truc, on a envie de dire.
Ouais.
Mais tu connais ?
Oui.
Parce qu'on l'a pas déjà passé ici ?
Je sais pas.
Moi, c'est un nom qui m'est familier, mais d'ici. C'est-à-dire que sinon, je connaissais pas du tout. Mais peut-être pas par toi, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est rigolo quand même.
Ils viennent dans les arènes de Nîmes en juillet, je vais aller les voir.
Grande déchaînade en perspective.
Ouais, absolument.
Bon, alors on a plein d'autres questions, mais on va peut-être commencer par un petit morceau de musique. Tranquille avec Imagine Dragons, Warriors. Qui est-ce qui a choisi ça ?
C'est moi.
Tu veux nous dire quelque chose sur cette chanson ?
Non,
Pourquoi tu l'aimes bien,
en cours d'anglais, on a étudié une bande-annonce d'un film qui va sortir. Là, c'est Wonder Woman.
D'accord.
Et il y a cette chanson, en fait.
Incroyable. Et elle te plaît ?
J'ai aimé. Parce que la voix du mec, en fait, on dirait Bono.
Ouh, ah. D'accord. Ah oui, que toi, t'es une grande fan de YouTube.
Ah oui.
C'est vrai.
C'était mon premier concert.
C'est touchant. Ok, alors c'est parti. Imagine Dragon Warriors. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. Your spirit never dies. Farewell, our
I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love.
Imagine Dragons, Warriors. Dis donc, là, on est dans... Moi, ça me fait un peu penser même carrément à... We will rock you. Bah oui, parce qu'il y a d'accord. un côté Warriors. C'est Queen. Tu me suis ou pas?
Si, je te suis.
T'es avec moi? Non, moi, je trouve... Alors, Jacques-Henri Hérault, on va continuer parce qu'on a un tas de questions à vous poser. Et comme le temps passe très, très vite, c'est vrai qu'on a envie d'en savoir beaucoup plus sur vous. Vous avez un parcours quand même assez rempli, assez riche. Vous avez fait l'école de sciences politiques et aussi une école... un peu d'élite. Et c'est vrai que pour suivre le parcours, pour passer de l'ado que vous étiez au directeur de l'OM que vous êtes maintenant, il y a quand même pas mal de choses à survoler qui nous intéressent. Donc, Maxime, ta question.
Oui, je voulais vous demander pourquoi vous avez fait un MBA à Harvard. Enfin, c'est assez nouveau dans votre génération d'avoir ouvert les études à l'international, alors que maintenant, c'est assez courant, enfin, l'export des...
Je pense que je savais même pas ce que c'était qu'un MBA à l'époque. C'était moins courant qu'aujourd'hui, tu as raison. Et en fait, c'est lié à une rencontre avec un Américain qui était un des dirigeants de Disney, qui lui avait fait ce programme. Mmh. Et avec qui j'en ai parlé un jour, et il m'a dit, mais tiens, pourquoi tu t'essayes pas? J'étais dans un job où, si je continuais encore quelques années dans ce job, j'ai l'impression que Je serais resté là-dedans jusqu'à la fin de ma vie professionnelle et j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je peux pas essayer une autre voie? Et lui m'en a dit beaucoup de bien de ce programme à Harvard. Et donc j'ai décidé de poser ma candidature et de tenter ma chance. Et j'ai réussi et je le regrette pas parce que ça a été deux années incroyables où j'ai été entouré de gens venant du monde entier et la richesse... cet environnement-là, elle est formidable. Quand tu vis deux ans avec des Argentins, des Japonais, des Américains évidemment, des Allemands, des gens de tous les pays du monde, c'est très enrichissant. Donc ça a été deux années incroyables dans ma vie. Quoi.
Et pour qu'on resitue, Harvard, c'est où?
Harvard, c'est sur la côte est des États-Unis, à Boston, qui est une ville un peu comme Marseille. C'est un port... C'est une ville qui a beaucoup d'histoire à l'échelle américaine. C'est une ville... vous savez que je travaille avec un Américain qui s'appelle Frank McCourt, qui est le propriétaire de l'OM, qui vient de là-bas, lui. Et il me dit souvent que Boston ressemble à Marseille, parce que Boston, c'est une ville dure.
Ouais, c'est assez pauvre.
C'est une ville où il y a de la pauvreté, c'est une ville où, pour y arriver, il faut travailler, se battre, tout n'arrive pas comme ça dans ses bras, dans ses mains, tombant du ciel. C'est une ville où il y a une rivalité aussi avec New York, forte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des parallèles intéressants entre Boston et Marseille. Hein, c'est surprenant, mais c'est le cas.
Ah, c'est intéressant de savoir ça. Et donc, vous en avez retiré beaucoup de richesses, de l'échange, de la rencontre avec les autres, peut-être de l'environnement aussi américain, où on découvre aussi une autre façon de faire ou d'être.
Ouais. Et où déjà, on vous accueille en vous disant que vous êtes formidable et qu'il n'y a pas de limite à votre développement personnel. Hein, c'est vrai que moi, dans les études que j'ai pu faire, j'ai une grande fille aujourd'hui qui a fait des études aussi, là, qui termine, qui passe des concours. Et je suis frappé de voir à quel point ici, parfois, en France, on nous dit, pour nous motiver, on nous met des mauvaises notes.
Ouais.
Mmh. Ça, beaucoup. On met des mauvaises notes. C'est pas terrible. 5, boum, t'es un bon élève, mais voilà. Là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, on vous dit que vous êtes le champion du monde en puissance et que si seulement vous rendiez compte de qui vous êtes, il n'y aurait pas de limite. Donc ça, c'est une démarche un peu autre, un peu différente. Et je trouve qu'on donne confiance aux gens. La confiance, c'est important, avoir confiance en soi. Et là-bas, je trouve qu'on donne confiance en soi parce qu'on est dans un environnement où c'est pas forcément facile. On arrive à 26 ans, 27 ans, 28 ans dans un amphithéâtre de 80 personnes. On doit lever le bras pour prendre la parole en public, pour s'imposer dans la discussion. Donc ça demande un peu de préparation. Voilà, il faut surmonter ses peurs. Et on a peur au début. On se dit, oh là là, où est-ce que j'arrive ? Et puis tout est fait pour vous expliquer qu'en fait c'est pas bien grave et que t'as certainement des choses à apprendre à tes camarades et t'as certainement des choses à apprendre de tes camarades. Et l'apprentissage, le processus de découverte vient beaucoup des discussions en classe et ça c'est passionnant, c'est très différent de ce que j'avais pu vivre avant, y compris dans des endroits... connu comme étant des bons endroits, mais ça a été une autre façon de découvrir l'apprentissage et ça m'a beaucoup apporté.
Et comme vous avez vécu là-bas 2 ans, vous avez été influencé par le sport américain en fait.
Oui, mais j'aimais beaucoup le sport américain bien avant.
Ah d'accord.
Après le taekwondo, j'ai joué au football américain en 6 ans.
Ouais.
Donc j'allais aux États-Unis voir des matchs, j'ai beaucoup aimé les sports américains et Boston c'est une ville où effectivement la culture sportive est extrêmement forte. Hein, les Celtics au basket, les Red Sox au baseball, les Patriots au foot américain. Donc oui, ça m'a toujours plu, ça, le sport américain. Et c'est une place très importante, beaucoup plus qu'en France, le sport américain. Ça commence à l'université. Les universités, tu prends une université qui n'est pas forcément une des 10 meilleures universités, mais peut-être la 50e université américaine, tu as un stade de 30 000 places ou 40 000 places, parfois même plus. Donc c'est vrai qu'on fait tout pour dire aux jeunes qu'il est important de faire du sport et on aménage même leurs horaires pour qu'ils aient le temps justement de faire du sport parce que on pense que c'est important et je crois que c'est important.
Et oui, et puis on valorise aussi énormément à la fois ce savoir-faire et parfois même l'accès à l'éducation par le sport.
Ouais.
C'est-à-dire que comme les études américaines sont extrêmement chères, souvent on est recruté déjà
absolument
pour faire partie d'une bourse, pour être à l'université en tant que sportif, mais du coup pour être aussi étudiant.
Absolument.
Et
absolument.
Ça, c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est aussi encore différent au niveau de pousser les gens vers à la fois l'éducation
parce
et le sport.
Parce qu'ils estiment qu'avoir une très bonne équipe de basket... Ben c'est bon pour leur image, pour leur prestige, pour leur notoriété. Ça peut attirer des étudiants parce que c'est un environnement concurrentiel, hein, l'université aux États-Unis. Et donc, ils sont prêts effectivement à offrir des bourses à n'importe quel jeune qui a montré en tout cas des capacités en matière de sport importante, donc c'est une chose intéressante.
Et puis c'est aussi un creuset de recrutement, c'est-à-dire qu'on recrute dans les universités américaines. Donc les futurs professionnels sont souvent
absolument
ceux qui étaient déjà dans les universités, donc c'est impressionnant.
Il y a tout ce qui est draft et tout qui se passe en lien avec les universités, quoi.
Voilà, le draft, c'est ça. On recrute les meilleurs étudiants sportifs universitaires et ils arrivent dans les équipes professionnelles et c'est un système qui est intéressant, qui je pense ne peut pas être appliqué en France, mais ouais, on peut s'en inspirer un peu.
En tout cas, tout ça, c'est très lié à l'échange, l'ouverture, la connaissance des autres. Et c'est assez intéressant, justement, de vous entendre parler sur ça. Si on avance un petit peu dans le parcours, en fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, en fait, Disney. Il y a eu, en fait, la communication chez Disney. Après, il y a eu aussi le Club Med. Donc, c'est encore autre chose. Il y a une question à propos de ça. Allez-y.
Donc, du coup, on voulait vous demander qu'est-ce que vous avez retiré de vos expériences chez Disney, au Club Med et aux médias sportifs.
Alors, chez Disney, c'était... vous n'étiez pas né, mais c'était la construction et l'ouverture de Disneyland Paris. Euh, et, euh, Et donc là, ce qui était intéressant, c'est un peu comme Harvard, que j'ai découvert quelques années plus tard, c'était aussi un environnement professionnel très ouvert, très international, où on se côtoyait toutes les nationalités. Donc c'est ça que j'ai appris beaucoup chez Disney. Et puis, chez Disney, j'ai appris aussi ce que c'était qu'une marque forte, hein, qu'on devait chérir, qu'on devait protéger, qu'on devait développer, mais avec qui on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Hein. Mickey, attention, hein, quand on le dessine, c'est toujours de la même manière, quand on le met en scène, c'est avec des règles bien précises, et ça, j'ai découvert ça, c'était impressionnant. Mais c'était une très belle équipe, c'était 6 années merveilleuses, parce que j'y ai appris beaucoup de choses. Il y avait des crises aussi. C'est une entreprise qui est arrivée comme ça en France. Alors évidemment, il y a eu des critiques au début. Mais donc, je me suis trouvé au milieu de ça et j'ai beaucoup appris. Ça, c'est certain. Énormément appris. Le Club Med, c'était un peu différent parce que là, culturellement, c'était une entreprise dans le même secteur d'activité, le tourisme, les loisirs, mais très différente de Disney. Même opposée à Disney dans son organisation, son management, comme on dit. Ses pratiques au quotidien. Et justement, c'était une entreprise un peu à la croisée des chemins qui devait changer parce que ses résultats étaient mauvais. Et ça a été très, très dur parce qu'on était un certain nombre d'anciens Disney au Club Méditerranée. C'était très, très dur d'essayer de créer une nouvelle culture. La culture dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Essayer de changer, de faire évoluer la culture d'une entreprise, d'une organisation, c'est très, très compliqué. Et j'y suis pas resté très longtemps parce que en sortant d'Harvard, moi, j'avais un souhait, une volonté, c'était de créer ma propre entreprise. Donc, on m'a demandé de rejoindre le Club Med à la sortie d'Harvard, mais je savais très bien qu'un jour ou l'autre, et un jour prochain, j'allais créer ma propre entreprise. Et ce jour est arrivé en 2000, où là, je me suis lancé dans une start-up, comme on dit. Vous connaissez ce terme-là, start-up, dans le domaine de l'information sportive et des nouveaux médias. Et là, l'idée qu'on avait avec mon associé, c'était de se dire que, avec le téléphone mobile, avec Internet, on allait probablement bouleverser la consommation de l'information. C'est-à-dire que le sport en 2000, c'était le journal L'Équipe, papier, c'était Canal+. Et puis voilà, c'était grosso modo ça. Et on s'est dit assez vite que, avec ce qu'on appelle les réseaux haut débit, qui permettent d'envoyer des masses d'informations à la demande, on allait vivre une révolution dans l'usage qu'allaient faire les consommateurs de l'information. Et donc c'est ça qu'on voulait, sur quoi on voulait travailler. C'est de se dire, bah tiens, est-ce qu'un jour, sur un téléphone mobile, on pourrait suivre un match de foot? Et d'ailleurs, cette entreprise a été, que j'ai créée avec mon associé, ça a été la première à, par exemple, diffuser un match de foot en direct sur un téléphone mobile.
Wow. Ah ouais.
Voilà, donc on a fait plein de choses, comment pousser des informations, justement, sur Internet, à la demande. Des usages qui n'existaient pas avant l'introduction des nouvelles technologies. Donc ça, c'était intéressant. Et puis évidemment, je n'ai pas été déçu de ce que représente le fait de créer sa propre entreprise. C'est beaucoup de travail, énormément de travail, mais c'est très gratifiant parce que voilà, vous êtes aux commandes, vous êtes aux manettes, vous voyez le résultat de vos actions. Et puis, parfois, vous échouez. Bah, c'est intéressant d'échouer. Vous vous dites, tiens, pourquoi j'ai eu cet échec? Qu'est-ce que j'ai mal fait, et qu'est-ce que je pourrais faire mieux, comment faire en sorte que je ne fasse pas cet échec deux fois.
On apprend de ces échecs.
On apprend énormément de ces échecs, et ça c'est... Mais c'est très important d'échouer. Si on n'échoue pas, alors on n'arrive pas à grand-chose dans la vie. Il faut connaître des échecs pour être capable de s'améliorer sans cesse, de progresser tout le temps. Ça, c'est très important. D'ailleurs, aux États-Unis, quand vous êtes recruté par quelqu'un ou par une entreprise, à un moment donné, vous pouvez être sûr qu'il y a une question qu'on vous pose, c'est alors, expliquez-moi vos échecs. Quand est-ce que vous êtes planté? Et là, si vous répondez un truc qui n'est pas vraiment un échec, c'est pas bon pour vous du tout. Il faut au contraire montrer que vous avez certainement connu plein de réussites, plein de succès, mais... il y a eu aussi des échecs dans votre parcours et il faut montrer votre capacité à être capable d'apprendre de ces échecs parce que ça montre la maturité qui est la vôtre et la façon d'analyser ce que vous faites bien et moins bien. Voilà.
Alors ça, c'est une très très belle leçon. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est extrêmement important comme notion justement de ne pas avoir peur de se planter et au contraire de savoir dépasser ses échecs en ayant appris quelque chose, toujours. Et puis on peut aussi tirer le positif aussi d'une mauvaise situation, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à tirer. Mais en particulier d'un échec pour rebondir, c'est quand même idéal pour grandir. Waouh, merci beaucoup. Jacques-Henri Hérault, on va continuer avec une petite chanson pour respirer, puis après on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet du sport aussi, parce que quand même on a des pros de l'OM ici, donc autant en profiter. Alors, on va se... Oui, c'est vrai que Clément, là, il est venu direct avec l'attirail, le bien, jogging entier, le t-shirt.
Mais tous, ils sont bien.
Mais Clément, il est la vitrine de l'OM. On en reparle après. On va s'écouter tout de suite. Dream Theater, Take the Time, c'est qui ça? Adrien.
Dream Theater, c'est un groupe de rock metal progressif. J'avais déjà, voilà. J'avais déjà mis une de leurs chansons il y a pas mal de temps. Là, ça, c'est leur deuxième album. Il y avait 3 singles. Il y en avait un que je pensais qu'il était un peu trop métal, l'autre que je trouvais un peu trop doux, donc trop mou. Donc ça, je pense que c'est un peu un bon mix des deux.
Un entre-deux.
Voilà.
D'accord. Donc, on écoute ça. Dream Theater, Take the Time. Dream Theater, Take the Time. Bon, alors entre-temps, pendant la chanson, est arrivé notre anniversaire du jour. Arthur, salut.
Oui, bonjour.
Quel âge as-tu, Arthur, aujourd'hui?
18 ans.
18 ans, les
la
gars.
La majorité est arrivée.
La majorité, allez,
enfin.
Tout le monde. Joyeux anniversaire. Oui, d'accord.
Merci. Je pensais pas qu'on oserait. Ben, disons que bon, à 18 ans, c'est un peu passé. Non, ça n'est jamais passé.
Ans, ça va pas ou quoi?
Attends, non, c'est vrai.
Parce que quand même, quoi, c'est pas un jour n'importe lequel.
Bah oui, c'est mes 18 ans. Du coup, c'est quand même pas tous les jours qu'on a 18 ans et ça n'arrive qu'une fois.
Tu sais que c'est le cas pour chaque anniversaire.
Waouh. Non, c'est vrai. Je suis choqué.
Quand tu y penses, en fait,
waouh, il y a un incroyable. Seul anniversaire par an. C'est et j'ai envie de te dire, le monde est dingue. Je suis né le jour de mon anniversaire. Waouh.
La majorité aujourd'hui, quand même, c'est pas rien. Et alors oui, pour le coup, petite présentation. Arthur est né à Bordeaux.
Oui.
J'ai rien à voir, j'ai ça, je dis rien.
Non, mais
hier,
ça a déjà
tout,
été dit, en plus, hors antenne, ça a déjà été dit.
Excusez-moi, pardon, tant pour moi.
Donc voilà, donc bon.
Bon, on va poursuivre avec ces petites questions. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet du sport, Ludwig.
Alors, quelle était votre plus grande motivation pour prendre la direction du club? Et est-ce que prendre la direction de l'OM, est-ce que c'est un défi compétiteur sportif ou bien une flèche de plus à votre arc?
Ah bah. Diriger l'OM, c'est diriger un club mythique en France et même en Europe, dans le monde. Un club reconnu partout. C'est incroyable de voir à quel point ce club parle à tout le monde. En tout cas, à partir du moment où on est fan de foot, je l'ai vérifié encore quand on est allé récemment à Barcelone ou à Munich voir les dirigeants du Bayern. Je crois que c'est un club qui inspire beaucoup de respect. Et donc le défi qui consiste à le relancer, à faire en sorte qu'il atteigne à nouveau des sommets, quel défi plus exaltant que celui-ci, quoi. Donc on est tous très motivés pour y arriver.
D'accord.
Ok, et alors la suite
c'est quoi votre plus grand rêve au sein du club? C'est quoi vos ambitions et vos objectifs?
Alors, on en a, mais bon, les rêves c'est beau, et il faut travailler au quotidien pour qu'ils
se
réaliser. Oui, notre objectif, c'est clairement de faire en sorte que l'OM soit une équipe qui gagne, sur tous les terrains d'ailleurs, on y reviendra peut-être, et qui soit une des premières équipes en France à lutter chaque année pour le titre, et ce faisant, à jouer les compétitions européennes à nouveau. Hein. Mmh. Je crois que ça, si on arrivait à ça, et ça prendra du temps, faut pas s'attendre à des miracles... trop rapidement, mais en tout cas on a cette volonté absolue de redevenir une des meilleures équipes de Ligue 1 et une équipe européenne qui joue les compétitions et les plus grandes régulièrement.
Ça semble logique, en tout cas au vu de la taille de Marseille et de l'équipe, ça semble logique.
Clément, est-ce que toi tu veux rajouter une question pour toi?
Alors ma question, comment comptez-vous réaliser le Champions Project qui vous tient tant à cœur, à vous et à Franck McCourt?
Bonne question, ça. Alors, c'est quoi d'abord? Peut-être rappeler ce que c'est que le projet OM Champion. Le projet OM Champion, c'est quatre piliers importants. Le premier, c'est donc la performance sportive. Il faut gagner. Il faut gagner sur le terrain. Il faut gagner en jouant au football. Et sans victoire, sans performance, on n'atteindra pas nos objectifs. Hein. Le deuxième pilier, c'est l'expérience qu'on veut proposer à nos fans, à nos supporters. Dans le stade, mais aussi en dehors du stade. Donc là, on va travailler beaucoup au sein du Vélodrome et en dehors du Vélodrome à tout ce qui fera que l'expérience autour de l'OM sera une expérience unique en France, voire même en Europe. Et ça, on est là aussi pour donner du plaisir aux gens. Donc, encore une fois, ça passe par la victoire, mais au-delà de la victoire, il faut aussi qu'on tisse des liens encore plus forts entre nos supporters et cette équipe. Et donc, on a plein d'idées pour y arriver. Le troisième pilier, c'est l'OM et sa responsabilité hein, en tant que club de foot, en tant qu'entreprise, dans la société. On ne peut pas réfléchir à l'OM comme un club comme ça, hors sol, qui a une équipe professionnelle, qui joue des matchs de foot toutes les semaines. C'est une entreprise, c'est un club de foot qui est dans une communauté, qui est dans une ville, qui participe beaucoup à l'image de cette ville, au dynamisme de cette ville, surtout quand elle gagne, au plaisir, au bonheur de ces populations, hein, là aussi quand elle gagne. Donc on a envie aussi de rendre tout l'amour qu'on nous donne aux habitants de Marseille. Et alors ça peut se faire de différentes manières, travailler avec les associations dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, qui est un thème qui nous importe énormément. Donc on a envie d'être un club de foot ouvert sur les autres, pour redonner tout ce qu'on peut nous donner, et Dieu sait si on nous donne beaucoup, hein. On voit la passion que cette équipe génère, et donc ça c'est un des piliers de notre projet qui est très important. Et puis le quatrième point, c'est qu'on est une entreprise, donc certes pendant ces premières années on va beaucoup investir à renforcer l'équipe, à structurer un peu mieux le club, ça va coûter beaucoup d'argent tout ça, on va même probablement perdre de l'argent, parce que c'est comme ça, dans des phases d'investissement, il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent. Néanmoins, à long terme, on veut assurer la pérennité de ce club, et y compris sa pérennité financière, parce que s'il n'y a pas de pérennité financière, il n'y a pas d'indépendance, s'il n'y a pas d'indépendance, on ne sera pas en mesure de poursuivre notre chemin. Donc on veut gérer ce club avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de rigueur, avec des moyens qui sont les nôtres, qui sont des moyens très importants, mais qui ne sont pas les moyens du Qatar ou d'un État souverain qui décide d'investir un jour dans le football. Et ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Bien sûr, tout le monde aimerait que les 10 meilleurs joueurs du monde rejoignent l'OM, mais ça n'est juste pas dans nos moyens. Donc on ne le fera pas. En revanche, oui, bien sûr, on veut investir et on le fera on l'a fait dès cet hiver, hein, dès janvier, on le fera, on continuera à le faire cet été.
Ok.
Moi, j'ai juste envie de savoir, pour vous, est-ce que ça vous inspire quelque chose quand même d'entendre tout ça et d'entendre tous ces projets et ces façons de les aborder par l'ouverture, par la culture, tout ça, est-ce que ça
vous pouvez critiquer, hein, vous pouvez me dire qu'il y a des trucs pas bien.
Maxime, n'hésite pas.
Pourquoi moi?
Non. Parce que t'es un expert aussi.
Non, je trouve que c'est quand même un super projet. Ça a l'air en tout cas très bien planifié et donc ça peut forcément très bien se passer. Bon, après, je sais pas, je suis pas dans le futur, hein, mais oui, et puis c'est réaliste en tout cas. C'est pas non plus un projet délirant du style ouais, on va s'acheter Messi quoi. Donc ça me paraît déjà très réaliste et donc du coup, bien, je sais tout ce que j'ai à dire. Et je ne supporte pas l'OM. Hein.
Et en donc, plus, voilà, il se tient Bordeaux.
Voilà, donc bon, quand même.
Bah écoute, merci de tes encouragements en tout cas. On va essayer de faire le maximum parce qu'on a vraiment envie d'y arriver.
Et ça se voit. Ça. Ouais.
Et est-ce que votre collaboration avec Franck McCourt, justement, là-dessus, elle est porteuse de quelque chose de très positif? S'il vient justement aussi parler de Boston, il y a une espèce de complicité peut-être entre vous?
Oui, je pense qu'on travaille beaucoup ensemble, on s'entend très bien, on a une vraie complicité, on se parle très souvent. Il vient à Marseille déjà, ce qui n'est pas le cas de tous les propriétaires de clubs, les propriétaires étrangers de clubs de foot européens. Vous en avez beaucoup qui achètent des clubs et qui en fait s'y rendent deux fois, trois fois par an. Lui, depuis fin octobre, il a à mon avis raté très peu de matchs à domicile. Donc il est vraiment passionné, mais au-delà de la passion qu'il a pour ce sport et pour cette équipe, voilà, il veut se donner les moyens d'y arriver. Et c'est un excellent entrepreneur qui a un parcours professionnel fait de succès incroyables. Il connaît ensuite très bien le sport professionnel puisqu'il a était le propriétaire, le dirigeant d'un des clubs mythiques du sport aux États-Unis, qui est les Dodgers de Los Angeles.
Ah
donc,
oui.
Même s'il y a des différences évidentes entre un club de baseball professionnel et un club de football européen, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont proches. Donc il a vécu ça, la relation avec les fans, la relation avec les diffuseurs télé, la question des droits. Il connaît ça, le marketing d'un club, c'est quelque chose pour lequel il a beaucoup de sensibilité et je pense que c'est une énorme chance pour l'OM de l'avoir aujourd'hui comme propriétaire de ce club.
C'est ça, ça représente un espoir.
Je pense, oui. Vous avez vu ce qu'il a dit, il a en plus beaucoup d'humilité. Je crois qu'une de ses premières déclarations quand il a pris ce club, c'est de dire mais nous on est là pour être serviteurs de l'OM.
Tout de suite ça pose les choses.
On n'entend pas beaucoup de propriétaires forcément tenir ce discours-là. Je pense qu'il ne fait pas ça, ça je sais, j'ai encore pas mal de mal à convaincre, mais il ne fait pas ça pour assurer un rendement sur son investissement. Je pense que c'est un entrepreneur averti. S'il avait voulu maximiser son rendement, comme on dit, dans le monde de la finance, il n'aurait pas choisi le secteur du sport professionnel. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment gagner. Voilà. C'est tout, réunir toutes les conditions sur le terrain, en coulisses, avec ses partenaires pour que ce club gagne, pour que cette équipe gagne, pour que cette formation marseillaise renaisse une bonne fois pour toutes et produise des Maxime Lopez, voilà, des jeunes qui vont avoir leur chance au sein de l'équipe professionnelle. C'est ça notre projet et il y a énormément de détermination à y arriver.
Parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Et en fait, tout le monde attend qu'une seule chose, c'est que l'OM retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est un espoir qui fait vivre Marseille depuis très longtemps. Et cette venue-là, peut-être, redonne cet espoir-là, effectivement, possible. Et cette motivation qu'on sent, de toute façon, très présente, forcément, ça peut... Après, on dit que ça passe par les joueurs. Est-ce qu'il y a, dans l'idée, justement, cette volonté, peut-être, d'acquérir des joueurs ou de placer des joueurs pour aller dans la direction de ce projet
Oui, 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 bien sûr. Mais d'abord... Cette équipe, nous, on est là depuis fin octobre. Mm-hmm. C'est quand même très récent encore.
T'en dirais hier.
Et on a fait, on a recruté 4 joueurs en janvier. Mm-hmm. On ne peut pas dire qu'on a bouleversé cette équipe. Mm-hmm. Et regardez la performance de cette équipe aujourd'hui par rapport à sa performance il y a encore 8 mois. Je ne veux pas dire qu'elle s'est métamorphosée, mais je crois que tout le monde réalise qu'il y a eu un énorme travail de fait de la part de Rudy Garcia et de son staff pour en tirer le meilleur d'elle-même. Cette équipe et ça c'est le savoir-faire d'un coach, c'est le savoir-faire d'une équipe technique et donc chapeau aussi aux joueurs qui étaient là avant que nous arrivions, parce que ce sont les mêmes et ils ont su se mobiliser, ils ont su travailler ensemble. Aujourd'hui, au sein de ce groupe, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de il y a une bonne ambiance, c'est un groupe sain. C'est pas forcément le cas de toutes les équipes de foot, donc d'abord chapeau à tous ceux aux joueurs qui étaient là avant notre arrivée et qui ont su, dans une période très difficile, parce que ça a été difficile quand un club change de propriétaire, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes aussi, ils ont su vraiment travailler pour arriver cinquième aujourd'hui et peut-être même européen. Ce qui était vraiment pas l'objectif quand on est arrivé, en tout cas dès cette année. Après, il y a des nouveaux, ils ont beaucoup d'importance dans le dispositif. On va continuer à renforcer cette équipe, bien sûr. Voilà, le foot, c'est le sport en général, c'est une alchimie, comme on dit, qui n'est pas évidente. Faire jouer 11 bonhommes sur un rectangle vert, faire en sorte qu'ils se donnent à l'autre, qu'ils aient une mentalité collective.
Et surtout qu'ils ont tous des caractères différents, ils ne sont pas tous pareils, donc du coup ça ne match pas forcément
en plus,
pareil entre chacun.
Dans le sport, il y a des égos, il y a des caractères effectivement différents. Et bien, je crois que Rudy a réussi avec son équipe à vraiment fixer un cap, travailler sur un style de jeu. Vous avez vu que c'est un coach qui est tourné vers l'offensive. Ça tombe bien, la devise de l'OM, c'est droit au but. C'est pas mal. Donc voilà, moi je me félicite déjà de ce choix et de ses premiers pas, de ses premiers mois. Je pense qu'ils sont prometteurs pour la suite.
Alors, j'avais juste 2 choses à dire. Je suis très content que Franck McCourt ait racheté l'OM techniquement, parce que ça pourrait, enfin moi je pense que ça pourrait se passer comme ça après, mais ça donne un nouvel élan à la Ligue 1 tout entière en fait, puisque si un investisseur arrive à pérenniser l'OM, d'autres clubs qui sont pas attrayants pourraient devenir attrayants. Je pense à Bordeaux, parce que pas beaucoup d'argent quoi. Enfin voilà, pour moi il y a des possibilités, donc c'est une très bonne nouvelle que Franck McCourt ait racheté l'OM. Après, La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous allez vous axer vers la formation plus que l'achat? Vous allez plus vous axer vers ça?
Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre.
Oui.
Déjà, au début, la formation, ça veut dire que tu prends des jeunes à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et donc, ils ont besoin de passer par des étapes bien de sûr. Construction qui prennent du temps.
Bien sûr.
C'est très rare, les Maxime Lopez, les Bouba Camara, les jeunes qui deviennent compétitifs à 17 ans, aussitôt que ça. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est d'abord dans ces premières années du projet, forcément,
il y aura de l'achat.
Des recrues, parce que c'est essentiel à cet objectif de performance. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour moi, la formation est aussi importante, parce que je pense qu'on vit ici dans une ville, dans une agglomération, dans une métropole qui est quand même assez importante.
Assez grande.
La métropole, Marseille c'est 860 000 habitants, mais la métropole c'est pas loin de 2 millions d'habitants.
Il y a forcément des bons dedans.
Voilà, avec une culture du football importante. Donc moi, un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que dans cette métropole, le choix naturel d'un jeune qui soit bon vers en foot, c'est d'aller vers Marseille plutôt que d'aller vers Nice, Monaco.
Voilà, c'est justement ce que j'allais dire, parce que Monaco, ils ont une très très bonne formation. Enfin, après, j'ai pas tous les chiffres, hein, bien sûr, mais de ce que je vois depuis quelques années, ils ont énormément de bons joueurs jeunes qui sortent comme ça. Donc, comment vous allez faire pour lutter contre ça, quoi?
Ben c'est plein de signaux à donner et c'est aussi une question d'organisation. C'est montrer qu'on bâtit des passerelles régulières entre la formation et l'équipe professionnelle. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais l'autre jour, on a un petit gardien qui, en Coupe Gambardella, vous savez tous ce que c'est que la Coupe Gambardella.
C'est la Coupe des jeunes.
C'est la Coupe U19, non? Pour les joueurs, les équipes.
Voilà, c'est comme c'est la Coupe de France des jeunes, quoi, on va le dire comme ça. Bah, notre jeune gardien a arrêté 3 pénaltys dans une séance de tir au but. Bah, le lendemain, il s'entraînait avec les pros.
Logique.
Donc c'était pas forcément quelque chose qui était fait régulièrement, mais je crois que ça lui montre à quel point
il y a des possibilités.
On regarde sa performance sur le terrain, et si elle est exceptionnelle, et bah, on l'invite. Et quand un môme de 16 ans, 17 ans... s'entraîne avec les pros, je peux vous dire, ça lui fait quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas meilleur booster, moteur de motivation que de montrer
qu'il y a des possibilités d'évolution.
Absolument. Et puis il y a des liens maintenant réguliers entre le staff technique de Rudy et la formation. Et à la tête de la formation, il y a aussi un monsieur qui est un vrai expert du football, qui s'appelle Andoni Zubizarreta, qui est un des grands joueurs de foot espagnol, qui a été directeur sportif du FC Barcelone et qui est chargé de structurer l'ensemble de la stratégie en matière de formation. Donc voilà, comme toujours dans ces cas-là, ça passe par une organisation, ça passe par des hommes, et une stratégie clairement mise noir sur blanc. Et aujourd'hui, en tout cas, on a vraiment la volonté de faire de la formation un des axes majeurs de notre projet.
D'accord. Bien, super intéressant. En tout cas, très bonne question, Arthur. Hein.
Ça me paraissait très important avec Monaco à côté. C'est compliqué, je trouve, de pas se mettre sur ce créneau-là, sinon on se fait voler tout par Monaco, quoi. C'est triste.
On va s'écouter alors donc Shuriken Samurai, c'était I Am. Un petit clin d'œil de la part de Julien Fartouk, qu'on remercie au passage, puisque c'est quand même l'association des Custos du Cœur qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Donc merci beaucoup à l'association. On va s'écouter donc Samurai. C'est parti.
Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder ?
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont. Où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni. Où tu te crois, mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille. Puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent. On tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins. Chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité. Les coudes se soudent, on pousse un kiaï. Le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi, tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi, tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé la nuit. Les lampadaires se morfent en mec, une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte, souvent au but.
minutes sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verre, c'est pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille, pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.